Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonne fin de semaine, bon début de fin de semaine sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Alex Bayerjon, qui sera avec vous pour la prochaine heure. Pour vous parler en cette première fin de semaine complète de septembre. Et mon Dieu, dire qu'il se passe des choses dans l'actualité serait un... Il y a peu de choses qui se passent dans l'actualité, serait un euphémisme, puisque ça n'a pas arrêté de la semaine. Moi qui voulais finir la saison d'été tranquillement. On n'aura pas cette chance. Débutons tout d'abord avec... le tableau des médailles du côté des Jeux paralympiques de Paris, puisque oui, ça a toujours lieu. Et les para-athlètes canadiens se déroulent très très bien pour eux. Avec, au moment d'enregistrer, 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. On se souviendra à la dernière émission que le paracyclisme et la paranatation étaient les 4 premières médailles. Kate O'Brien, Aurélie Rivard, Kelly Shaw, Alexandre Hayward. Il s'en est rajouté quelques-unes depuis. Notamment en paranatation, Nicolas Bennett repart avec la médaille d'or au 100 mètres brasse chez les hommes, ainsi que le 200 mètres style libre, mais plutôt la médaille d'argent. Sa deuxième médaille d'or, c'est aux 4 nages 200 mètres. Aurélie Rivard est montée, elle aussi, sur la première marche du podium aux 400 mètres style libre. Cette semaine, Cody Fournier en para-athlétisme, 200 mètres, j'ose croire que c'est de la course. Greg Stewart, para-athlétisme, lancé du poids, médaille d'or. Non, c'est le lancé du disque qu'on a eu deux médailles d'or aux Jeux olympiques. Que là, c'est le lancer du poids. Brent Lakatos, par athlétisme, 800 mètres. Marathon 800 mètres. Pour les médailles d'argent, toujours en paranatation, une vraie discipline pour les athlètes canadiens. Tess Whitliff, 200 mètres, 4 nages. Aurélie Rivard, à nouveau, donc elle a une médaille de chaque couleur, 100 mètres libre. Brent Lakatos, Lakatos plutôt par athlétisme aux 400 mètres. Le paracyclisme individuel, Nathan Clement, médaille d'argent également, et Reid Maxwell, 400 mètres style libre. Pour les médailles de bronze en paratriathlon, Leanne Taylor chez les femmes a remporté le bronze. Austin Sminek, le 100 mètres en athlétisme. En natation, Cathy Cosgriffe, le 100 mètres papillon. Et Tess Whitliff, à nouveau, au 100 mètres brasse chez les femmes. Donc, dans le cas d'Aurélie Rivard, espoir de médaille qui repart avec une de chaque couleur. ce qui est quand même pas rien. Ce qui place le Canada en 17e place. Mais c'est vrai, il y a eu une médaille d'argent qui s'est gagnée ce matin, qui n'était pas dans mon petit tableau. Jesse Zissou, en argent au lancer du disque. Voilà pourquoi j'étais mélangé avec le lancer du poids, le lancer du disque. On a une médaille d'or au lancer du poids, médaille d'argent au lancer du disque, pour compléter les deux autres médailles d'or qui avaient été remportées masculin et féminin pendant les Jeux olympiques de Paris fin juillet. Donc, voilà pour ça, tableau des médailles qui va bien. 17e place, c'est quand même pas si mal. Il reste encore quelques compétitions. Ce sera déjà la cérémonie de fermeture qui approche en cette journée de samedi, pour ceux qui l'écouteront samedi. Donc, on peut dire que le Canada termine à la 17e place. Quoique, il reste quelques compétitions quand même aujourd'hui, vendredi, demain, samedi. Donc, à surveiller si le tableau change un tout petit peu. Mais ça, c'est quand même assez décidé pour le tableau final, puisque de toute façon, la Chine, loin devant, avec 74 médailles d'or, 170 médailles total est en première position, suivi par la Grande-Bretagne avec 39 médailles d'or et 90 médailles totales, et les États-Unis à la troisième place avec 27 médailles d'or et 79 médailles totales. Ex aequo à la quatrième place au nombre total de médailles, la France et l'Ukraine avec 64, mais la France devance d'une médaille d'or, donc se place à la véritable, entre guillemets, quatrième position, puisque l'Ukraine est à la cinquième, avec tout de même 16 médailles d'or, 21 d'argent et 27 de bronze. Comme quoi, ces gens-là, eux, ont de la motivation. Et si quelqu'un, ce sera mon lien, qui a manqué de motivation, c'est bien Pierre Fitzgibbon. Un des favoris du côté de la CAQ, pour justement son air d'aller et, comment dire, son attitude impassable à haïr la politique, comme il le dit lui-même lors de sa dernière conférence de presse, où il a dévoilé, ou en tout cas, il a laissé très clairement sous-entendre que François Legault lui avait suggéré de démissionner et non pas de s'être fait démissionner dans un certain sens. Puisque, semble-t-il que pendant tout l'été, Pierre Fitzgibbon songeait à abandonner les électeurs de Terrebonne et abandonner le cabinet premier ministériel, si ça se dit. Du moins, le cabinet de François Legault pour retourner à la chasse aux faisans et retourner dans ses terres pour arrêter de s'écœurer de la vie politique. De toute façon, c'était un secret de polichinelle, comme on dit bien. Il était littéralement plus dans la game au sens où il voulait partir. Pourquoi avoir demandé un autre mandat à ce moment-là, la question se pose. Des élections partielles devront être déclenchées d'ici l'hiver prochain, du moins pour les gens de Terrebonne dans le cas de Fitz qui s'enfuit. Plus de motivation, c'est l'une des raisons. C'est assez rare qu'on entend ça. Habituellement, on se trouve des raisons familiales, on se trouve des défis à réaliser ailleurs. Là, lui, son idée, c'était de partir en décembre. Mais son manque de motivation faisait en sorte que, normalement, il aurait dû avoir un projet de loi qui devait être adopté, surtout à cause de lui, sur l'énergie au Québec, puisqu'il était le super ministre de l'énergie et de l'innovation. Donc, on lui avait créé un ministère avec beaucoup d'emprise, beaucoup de pouvoir, ce qui fait en sorte que cette grosse machine-là pour vendre l'énergie d'Hydro-Québec à Nordvolt, par exemple, ou pour vendre l'énergie en général du Québec aux multinationales, ben, Fitzgibbon était le roi est maître dans ses compétences-là. Beaucoup ont dit que c'est parce que Northvolt avait déjà dératé et qu'on ajoutait un 18 mois avant l'ouverture de l'usine, que c'est à cause de ça qu'il quitte le navire. Mais non, cette rumeur-là qu'il voulait quitter, de toute façon, la vie politique était déjà présente. On lui demandait déjà, de toute façon, est-ce que vous allez démissionner bientôt? Ce que lui-même avait dit, vous le saurez le matin même, la journée que je démissionne, quand je démissionnerai. Et ironiquement, le matin même de sa démission, il faisait une tournée des médias en parlant des projets qui allaient s'en venir pour l'automne, en parlant de ce qu'il voulait faire dans les prochaines semaines, sans jamais mentionner que François Legault allait le démissionner quelques heures plus tard. Puisque, à la surprise de tout le monde, lundi, on annonçait qu'il allait abandonner la vie politique. Il y a des gens qui étaient gentils, qui parlaient de retraite. Dans ce cas-ci, c'est un abandon. De 6 ans de politique, c'est pas non plus une vie active en politique non plus. Mettons comme un François Legault, que ça fait plus de 20 ans qu'il est là, avec une interruption bien sûr, mais depuis qu'il est revenu, total 20-25 ans. Ça, c'est une vie politique, tandis que Fitzgibbon, c'était une virgule. Dans son cas, comme justement les rumeurs persistaient. Aller rencontrer François Legault, ouais, ça me tente plus ben, je suis pas motivé à avoir les plus gros projets de l'histoire de la province, comme peut-être demander de construire un nouveau barrage et des choses comme ça. La révolution technologique et électronique du Québec, ouais, ça me motive pas tant que ça. Bon, ben, si ça te motive pas, mon fils, démissionne aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois une distraction jusqu'en décembre. Là-dessus, François Legault a un peu raison, parce qu'effectivement, si de maintenant jusqu'à décembre, lorsqu'il allait démissionner pour lui, évidemment que ça aurait été, surtout pour lui, gossant plus que d'autres choses, quand les journalistes, plutôt que de parler de sa révolution industrielle qu'il voulait faire, de tout le temps être après lui. Fait que là, est-ce que vous démissionnez cette semaine, M. Fitzgibbon? Parce qu'évidemment, tout le monde était au courant qu'il voulait le faire, mais c'était le camp qui était le plus gros point d'interrogation. Donc, ça fait en sorte qu'on l'a démissionné cette semaine, qu'il a dû faire ses boîtes en vitesse, puisque déjà en date d'hier jeudi, Christine Fréchette lui succédait officiellement, donc elle deviendra la porte-étendard et la voix de François Legault en tant que ministre remplaçante de l'énergie. On dit remplaçante parce que malheureusement, Christine Fréchette n'est pas Pierre Fitzgibbon non plus, donc elle n'aura pas à se rendre dans les médias pour dire « Moi, je vais monter Hydro-Québec » quand de l'autre côté, François Legault dit que « Non, non, on ne montrera pas les tarifs. Tant que je serai premier ministre, je ne montrerai pas les tarifs. » Mais Fitzgibbon, lui, il dit « Ben oui, il va falloir monter les tarifs parce qu'il y a un manque à gagner. » Il manque... étonnamment, il y a un manque à gagner chez Hydro-Québec, mais encore une fois, quand on donne notre électricité à plusieurs entreprises qui, elles, vont bouffer le plus d'électricité possible, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile d'en créer davantage. Et de toute façon, construire un nouveau barrage hydroélectrique parce qu'on va en manquer, c'est pas non plus quelque chose qui se construit du jour au lendemain et qui va coûter 1 000 $. Fait que, de toute façon, il y aura des hausses d'Hydro-Québec. François Legault, lui, espère être encore là dans 6 ans. On va prendre ça une semaine à la fois, mon François. Parce qu'en ce moment, les intentions de vote au Québec ne sont pas de son bord. Donc, il n'est pas en voie de rester premier ministre aux prochaines élections de 2026. Donc, qu'il prenne son mal en patience, ou du moins ce qui va lui rester de temps dans ce cas-là. Mais de toute façon, ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'automatiquement, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon prendrait le pouvoir, ou par on ne sait pas quel miracle, quelqu'un d'autre le prendrait, qui nécessairement augmenterait les frais d'Hydro-Québec pour les clients parce qu'il y a un manque à gagner. Il y aurait du réinvestissement à faire, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, si un projet est déjà entamé, quand même que ce soit Christine Fréchette qui se ramasse à présenter en l'absence de l'autre le projet de loi, qui de toute façon ne se pourra pas. Les oppositions sont déjà en train de dire c'est pas vrai que Christine Fréchette va devenir la porte-parole de Pierre Fitzgibbon pendant qu'il est parti. Donc c'est pour ça que normalement, il aurait dû avoir cette réforme-là de l'énergie qui allait se mettre en branle à partir de la semaine prochaine, dès l'ouverture du Parlement à Québec, mais qu'évidemment, les commissions risquent d'être énormément chamboulées. Pas juste parce que c'était le projet à Fitz, parce que de toute façon, François Legault est impliqué, mais c'est surtout parce que c'était lui la tête d'affiche de l'énergie ou du moins du renouveau qu'on voulait donner, qu'on voulait insuffler du côté de la CAQ. Mais que maintenant qu'il est parti, on peut pas juste donner le témoin à Christine Fréchette puis tiens, arrange-toi avec ça. Ça serait quand même compliqué, surtout encore une fois parce que elle n'est pas Fitzgibbon, personne n'est Fitzgibbon de toute façon, donc le ton va changer drastiquement, ça c'est sûr et certain. Encore une fois, Christine Fréchette n'aura certainement pas le même loisir que Pierre Fitzgibbon à y aller de déclarations qu'elle voudra faire à l'emporte-pièce, comme on dit si bien. Elle sera beaucoup plus contrôlée que Pierre Fitzgibbon, ça c'est sûr et certain. Et qui hérite de l'immigration pendant que Christine Fréchette monte à l'énergie? Surprise! Jean-François Roberge retrouve des fonctions, gagne des fonctions et sera maintenant le ministre de l'immigration parce que c'est la faute des immigrants si on ne parlera plus français au Québec. Le verbatim de la CAQ, ou en tout cas le courant de pensée. Donc, on mélange immigration et francisation dans le même ministère parce que pourquoi pas? Dira certainement François Legault. On en est rendu là. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de ce deuxième service ultra chargé de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et CFAQ Chiz 94.3 à Québec. Valence, qu'on vient d'entendre en musique à la manière de tirer du dernier album. International, allons-y tout de suite. Semaine dernière, le Brésil ordonnait le blocage de la plateforme Twitter X après, lors de la suspension d'un juge de la Cour suprême, donc rien de moins. Le Brésil a bloqué la plateforme des médias sociaux Twitter X d'Elon Musk tôt samedi, le rendant largement inaccessible à la fois sur le web et par l'intermédiaire des applications en tout genre. Donc c'était plus possible d'accéder à Twitter. Cette décision intensifie une querelle de plusieurs mois entre Elon Musk et un juge de la Cour suprême brésilienne au sujet de la liberté d'expression, des comptes d'extrême droite et de la désinformation. Le juge Alexandre de Moraes a ordonné la suspension vendredi de la plateforme. Pourquoi? Les régulateurs... On y arrivera. Pour bloquer X, les régulateurs brésiliens des télécommunications, Anatel, a demandé aux fournisseurs des services Internet de suspendre l'accès des utilisateurs à la plateforme des médias sociaux. Minuit 1, heure locale, les principaux opérateurs avaient déjà commencé à rendre le site indisponible. Le juge de Moraes avait averti Elon Musk mercredi soir dernier que Twitter pourrait être bloqué au Brésil s'il ne se conformait pas à son ordre de nommer un représentant et avait fixé un délai de 24 heures. Donc, un représentant de Twitter en sol brésilien. L'entreprise n'a pas donné suite et n'avait pas de représentant de toute façon dans le pays depuis le début du mois. Donc, c'était déjà un truc que Elon devait corriger. Mais, oh surprise, il ne le faisait pas. Elon Musk a montré son manque total de respect pour la souveraineté brésilienne et en particulier pour le pouvoir juridique. En s'érigeant en véritable entité supranationale et immunisée contre les lois dans chaque pays. Donc, qu'il se conforme à la loi ou il en subira les conséquences, ni plus ni moins. Et il a choisi d'en subir les conséquences. Le juge a annoncé que la plateforme resterait suspendue jusqu'à ce qu'elle se conforme à ses ordres et a également fixé une amende quotidienne de 5000 réaux ou 11 958 $ canadiens aux personnes ou entreprises utilisant des VPN pour y accéder. Donc, si on décidait de contourner la loi pour juste essayer de quand même se rendre sur la plateforme, ben, et qu'on vous attrapait, il y aurait des amendes pour les Brésiliens. Dans une décision ultérieure, il est revenu sur la décision initiale d'établir un délai de 5 jours pour que les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'accès à Internet eux-mêmes et pas seulement les régulateurs de télécommunications bloquent l'accès à X. Donc, il y a eu peut-être un petit délai pour certaines personnes, mais en tant que tel, présentement, au Brésil, il n'est pas possible d'accéder à X. Twitter. Le Brésil est un marché important pour Twitter qui a dû faire face à des pertes de revenus de publicitaires depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter en 2022. Selon le groupe d'études du marché eMarketer, quelques 40 millions de Brésiliens, soit environ un cinquième de la population, allaient quand même sur Twitter une fois par mois. Évidemment, Elon crie à la censure de se faire censurer, de ne pas être capable de fournir quelqu'un pour juste être régulé au Brésil. Et parce que le Brésil est le premier pays à le faire, il y en a d'autres qui pensent peut-être à bloquer également Twitter parce que de toute façon, ce qui en reste, ce qui reste sur la plateforme, parce que Elon Musk fait un peu ce qu'il veut en étant ce qu'il est, ben, il a également fait en sorte qu'au Brésil et partout dans le monde, mais surtout dans le cas du Brésil, qui a restauré et qui a redonné accès à sa plateforme à des comptes d'extrême droite, à des personnalités publiques qui, justement, ne fait qu'attiser la haine ou à volontairement créer du conflit pour créer du conflit. Et parce que, justement, la plateforme Twitter ne monitorise pas l'entièreté de ces propos-là, ou en tout cas, quand on fait des signalements, le trois quarts reviennent, non, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça parce que c'est juste des robots qui le font et qu'il n'y a plus personne en tant que tel pour vraiment juger des signalements qui sont faits pour justement du contenu raciste, du contenu homophobe, du contenu violent, des menaces de mort qui ont lieu sur Twitter et qui ne sont pas régulées. Bon, ben parce que ces comptes-là, justement, ne sont plus surveillés ou qu'on en réinstaure carrément, qu'on redonne plateforme à ces personnes-là, évidemment que les annonceurs ne veulent pas avoir leur nom à côté de ces mêmes gens-là. Donc, les publicités en ce moment sur Twitter, c'est toutes des cossins qui servent à rien ou du dumb shipping qu'on appelle, des contrefaçons, des fausses fabrications, du cheap à pas cher qui fait en sorte que c'est juste 5 piastres ce cossin-là. Oui, mais il est brisé puis il ne marchera pas. Bon, on va juste le jeter. Fait que c'est ça. C'est du dump shipping. Parce justement, en plus, c'est des contrefaçons. C'est du mal fait. Ou c'est juste de la pub de crypto-monnaie puis d'autres cossins tout aussi utiles les uns que les autres. Ce qui fait en sorte que dans l'Union européenne, on commence à songer également à peut-être commencer à bloquer certains accès à Twitter. Notamment au Royaume-Uni, les émeutes qui ont eu lieu dans les dernières semaines parce qu'on avait mis la photo sur Twitter du mauvais individu qui avait été poignardé des enfants dans une garderie. Ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont été harcelés pour ça. Ou on a mis erreur sur la personne, par exemple, c'était en Géorgie. Cette semaine, qu'il y a eu une autre fusillade dans une école, deux élèves, deux professeurs qui sont décédés. Sur Twitter, la première photo qui a été mise en ligne, on a mis l'une des victimes comme étant celui qui avait tué tout le monde. Fait que tu sais, parce que c'est pas régulé, parce que le monde ne contrôle pas ça. Il y a eu aussi également, on en reparlera après la pause, une fausse nouvelle comme quoi Kamala Harris aurait fait un hit and run, aurait blessé une femme en 2011 avec sa voiture quand l'entièreté de la nouvelle est fausse, que c'est un faux site de nouvelles qui a été créé il y a 2 semaines et que possiblement ce compte-là proviendrait de la Russie pour justement s'ingérer dans la politique américaine comme on le soupçonnait qu'elle allait le faire. Ben, sur Twitter, Il y a encore des traces de cette fausse vidéo-là. Témoignage réalisé avec l'intelligence artificielle d'une femme en genre de chaise roulante qui dit « Je ne peux plus me taire, je dois le dire. Kamala Harris m'a foncé dessus avec son char. » Fait que tu sais, et on le voit que c'est de l'intelligence artificielle. Sa chaise roulante n'a pas de roue. Mais les gens ne font plus l'effort de vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Et il y a même des gens qui repartageaient cette fausse vidéo-là en disant « Ben, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais si c'est vrai, Kamala Harris devrait arrêter sa campagne. Ouais, » mais justement, le bout, si c'est pas vrai, est encore là parce que l'origine de tout ça, c'est la Russie. Donc, parce que c'est pas régulé, parce que, justement, les gens ne font pas cet effort-là de vérifier si c'est vrai, donc Twitter devient dangereux parce qu'il n'y a plus de vérification qui est faite. Oui, on peut rajouter des notes de contenu. Les utilisateurs peuvent s'entendre à voter pour rajouter du contexte lorsque les trucs sont faux ou à demi-vrais, mais ce n'est pas suffisant. La plateforme ne retire pas nécessairement les publications parce qu'elles ont été votées comportant des erreurs. On ajoute la mention. Si c'est un compte payant, il ne fera plus d'argent sur cette publication-là, mais c'est tout. Le contenu n'est pas retiré quand il est faux. Ce qu'une plateforme normalement devrait faire quand du faux contenu est mis sur sa plateforme. Mais au nom de la liberté d'expression, Elon ne veut pas le faire. Une démarche étonnante fait l'objet d'une enquête à Bruxelles, initiée en décembre, et qui pourrait lui valoir des amendes pour pouvoir atteindre 6 % de son chiffre d'affaires mondial. La Commission européenne devrait rendre ses premières décisions d'ici quelques semaines, voire quelques mois. L'issue reste ouverte. À titre préliminaire, la Commission a établi trois infractions. Les coches bleues censées certifier des sources d'informations dignes de confiance trompent les utilisateurs parce que n'importe qui peut payer 10$ et faire à croire qu'il sait de quoi il parle. La transparence est insuffisante en matière de publicité. Qui sont les annonceurs? Combien ça coûte? Comment les gens sont ciblés? Parce que, règle générale, les publicités que l'on reçoit sur Twitter ne sont même pas destinées à nous autres ou ne nous intéressent pas. Et X ne respecte pas l'obligation de fournir à des chercheurs agréés un accès à ces données. Donc, l'accès à l'information n'est pas possible sur Twitter, ce qui est également un énorme problème. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Vous écoutez le deuxième service encore pour la prochaine demi-heure. Gab Bouchard avec « Même si » qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. J'en parlais juste avant la pause musicale. Campagne de désinformation qui proviendrait de la Russie actuellement sur les réseaux sociaux avec une vidéo d'une certaine Alicia Brown, une femme de 26 ans de San Francisco, qui disait avoir été impliquée dans un accident et délit de fuite avec Kamala Harris en 2011, qui l'aurait laissée paraplégique. Évidemment, tout est faux. La nouvelle est relayée par la fameuse chaîne de télévision KBSF San Francisco, SF San Francisco. Déjà à la base, ces lettres-là d'appel ne se peuvent pas, au sens où SF San Francisco, ce serait un beau hasard, mais c'est impossible. Même semble-t-il qu'on avait retrouvé l'origine de ces lettres-là, mais pour une station qui avait cessé d'exister il y a à peu près 20 ans. Le 2 septembre 2024, on retrouvait un article intitulé « Kamala Harris a renversé une jeune fille de 13 ans avec sa voiture avant de quitter les lieux sur ce site-là, KBSF ». L'auteur dont on ne connaît pas l'identité, parce qu'évidemment c'est un article de nouvelles télé dans ce cas-ci, qui n'est pas signé. Premier indice que c'est peut-être faux. Kamala Harris était au volant d'une voiture lorsqu'elle a renversé deux piétons et a quitté les lieux de l'incident à San Francisco. L'une des victimes, Alicia Brown, a décidé de rendre l'histoire publique quelques 13 ans plus tard. Elle explique qu'après l'accident, l'entourage de Kamala a menacé sa mère pour qu'elle ne signale pas l'incident à la police. Ce n'est qu'après la mort de sa mère 13 ans plus tard qu'Alicia a décidé de raconter cette histoire. Rapidement, l'article a été repris également par des comptes populaires sur Twitter qui, justement, sont friands de cette désinformation-là sans la vérifier. Et quelqu'un a eu la brillante idée de juste fouiller un peu les données du site Internet pour découvrir que le site Internet avait été créé il y a à peine 2 semaines. Donc, lorsqu'on tape dans la recherche du site Internet, dans l'autorisation, entre guillemets, ou la mise en ligne du site Internet, je devrais dire, on arrive à juillet 2024. Donc, pour une chaîne de nouvelles qui, de toute façon, n'existe pas quand on fait juste rechercher les lettres d'appel en tant que telles. C'est nous, au Canada, c'est CFAK, CHYZ. Les États-Unis, autres, c'est le K et 3 autres lettres. Bon, ben là, c'est KBSF. Ça n'existe pas. Récit se fonde sur une vidéo de 5 minutes dans laquelle une jeune femme en fauteuil roulant raconte ce prétendu incident qu'elle a vécu en 2011. Et quand on regarde plus... Mettons, on enlève le son et qu'on fait juste regarder la vidéo, la tête ou à peu près bouge et à peu près rien d'autre. Ce qui laisse présager que c'est de l'intelligence artificielle, parce que de toute façon, il n'y a pas de décor, il n'y a pas rien, donc on peut se concentrer sur uniquement faire en sorte que le visage ne se défigure pas trop, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas tout à fait ça encore. Mais voilà, donc le témoignage avec une voix fausse également, parce que c'est ça, cette personne-là n'existe pas. La prétendue, comment elle s'appelle, Alicia Brown, n'existe pas. Et parce que, justement, amplifié par Twitter, parce que cette nouvelle-là a d'abord grossi énormément sur Twitter, et malgré le fait qu'on a des notes de communauté qui ont été ajoutées à ces informations-là pour dire « non, c'est faux », ben les principaux comptes de désinformation, eux, ont juste enlevé leur publication. Mais le mal est fait quand même. La vidéo a circulé. Il y a des gens qui continuent de faire circuler la vidéo malgré le fait qu'il y a cette note-là qui est ajoutée automatiquement à cette nouvelle-là. Et justement, le manque de régulation fait en sorte que ça continue d'exister. Et le fait que justement ce site-là, KBSF, de toute façon, a été mis hors ligne quasiment dans les 24-48 heures qui ont suivi, ben les informations à l'intérieur des données qu'on peut avoir, c'est que ça pourrait provenir de la Russie. Comme avant les Jeux olympiques de Paris, il y avait des nouvelles qui circulaient que le crime avait explosé en France, c'était dangereux de marcher la nuit dans Paris et tout ça, parce que les robots de la Russie envoyaient ces nouvelles-là partout dans le monde de sites qui imitaient les plateformes françaises, donc qui imitaient les BFM TV, les France Télévisions, etc., qui existent, imitaient les plateformes, comme nous autres. Au Québec, on a des faux Journal de Montréal, des fausses presse, des faux Radio-Canada, des fausses Anne-Marie Dussault qui font la promotion de casinos en ligne ou qui disent que Marie-Pierre Morin s'est fait péter la gueule pour avoir révélé son secret de Bitcoin, tout comme Normand Brathwaite et nouvellement Charles Lafortune au Québec qui a vendu la mèche sur le plateau de La Voix avant de se faire censurer. Peu importe ce que ça veut dire. Mais voilà, donc, cette désinformation-là existe. Et en ce moment, pour cette ingérence russe-là aux États-Unis, les poursuites criminelles, un acte d'accusation a été publié par le département de la justice américaine cette semaine pour notamment le semi-vrai compte de Tenet Media, qui est une chaîne sur YouTube qui partage allègrement de la désinformation et qui partage le narratif de la Russie. Ce faisant, ceux qui étaient commandités par Tenet Media se trouvent à être des influenceurs de droite et d'extrême droite conservatrice aux États-Unis qui, comme par hasard, dans leur dernière vidéo, dans les dernières années, disaient que l'Ukraine était notre ennemi, la Russie est notre allié, etc., etc. Mais eux se défendent aujourd'hui en disant qu'ils ne savaient pas que leur boss, à eux, était payé par le Kremlin. Quand il y a un acte d'accusation déposé par le système judiciaire américain qui nomme ces mêmes entités-là. Et où ça devenait intéressant, c'est que des Canadiens seraient impliqués. Deux Canadiens seraient impliqués dans l'élaboration de la chaîne YouTube TENET. Elle est basée au Tennessee, techniquement. Mais il y aurait aussi une filière TENET Media basée à Pointe-Claire, au Québec. Les deux propriétaires canadiens ne sont pas nommés dans les documents, ils ne sont pas accusés, mais pourraient avoir été payés eux aussi par les Russes, tout en engageant d'autres gens qui, eux, recevaient un salaire, mais qui ne posaient pas plus de questions que ça, d'où provenait l'argent quand c'était des Russes. Mais leur contenu, comme par hasard, était pro-russe, anti-Ukraine, était pro-valeurs russes et anti le reste. Le département de la justice a accusé deux employés de la télévision d'État russe de Russia Today et d'avoir orchestré l'opération d'influence étrangère. Kostiantin Kalechnikov et Elena Afanasyeva. Le risque d'essayer des noms en direct, sont accusés de blanchiment d'argent et d'avoir secrètement travaillé pour le compte d'un gouvernement étranger. Ils auraient utilisé une série d'entreprises écrans pour acheminer 10 millions de dollars américains afin de financer le projet. Cela s'inscrit dans une série d'accusations et de sanctions financières portées mercredi par le département de la justice contre des ressortissants russes, alléguant de vastes campagnes d'ingérence politique aux États-Unis. Le département américain a en outre saisi 32 sites web gérés par des éléments russes. Il s'agissait en fait de copie-clones de vrais médias américains, dont Fox News et le Washington Post. Donc, nous, c'est Radcan et le Journal de Montréal qui se font copier. Les États-Unis, c'était des faux Fox News et des faux Washington Post, des faux Fox News. On se doutera évidemment pourquoi. Ce qui a fait en sorte également que dans cette même journée-là où on démantelait des faux sites d'information d'origine russe, Vladimir Poutine y allait d'une déclaration en disant « Moi, je voterai pour Kamala. » Fait que, tu sais, quand tout est dans tout, mais que tout est un peu n'importe quoi également, c'est pour essayer de détourner l'attention, mais on sait très bien que de toute façon, Vladimir Poutine ne veut rien savoir de Kamala Harris. C'était juste pour faire comme « Ouais, on a peut-être eu des petits sites qui ont paru, mais Kamala, c'est une bonne personne pour faire dire à quelques personnes « Ah ben là, si Vladimir Poutine appuie Kamala Harris, je ne voterai pas pour elle, certain. » Quand bien sûr, ce n'est pas sérieux. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Jeanne Côté, qu'on vient d'entendre en musique, vent d'ouest sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Parlant de l'ouest, avant de conclure, les deux Canadiens qui sont au cœur de la poursuite avec TENET Media Canada, entre guillemets, la chaîne YouTube des informations russes, savaient, eux, qu'ils travaillaient pour les Russes. Donc, si leurs employés n'avaient pas nécessairement de lien, eux savaient très bien qu'ils travaillaient pour Kalechnikov et Afanasyeva, qu'ils utilisaient des prénoms également pour communiquer avec les personnalités de la chaîne qu'ils tentaient de courtiser. Un des commentateurs aurait même exigé un salaire de 5 millions de dollars américains par année pour produire des vidéos sur TENET Media. Un autre demandait des versements de 100 000 par semaine. Ils ne sont pas identifiés dans les documents, mais TENET Media avait seulement été lancé en septembre dernier, avait des codes d'écoute corrects sans plus, mais essentiellement était pour la désinformation et pour le message très, très de droite. Pour dire que tout est mauvais et tout est méchant de toute façon. Fait que voilà pour ça. Comme je disais, restons à l'ouest puisque du côté de Toronto, cette semaine, Jack Meeting créait la surprise en voulant déchirant l'entente avec les libéraux de Justin Trudeau. Jack Meeting, qui était bon en concubinage avec Justin Trudeau depuis 2 ans et demi pour que le gouvernement minoritaire des libéraux survive avant d'arriver en élection anticipée. Le mandat que le NPD avait, c'était de voter avec les libéraux, ce qui faisait en sorte que ceux-ci avaient un peu plus de stabilité dans le Parlement canadien, mais en contrepartie, demandaient à ce que certaines de leurs idées soient réalisées, notamment l'accès aux soins dentaires pour tous, il y avait de la gratuité de médicaments aussi qui était censé être fait, mais parce que ça n'allait pas assez vite à son goût, et qu'il a décidé que soudainement, Justin Trudeau était la pire personne pour gérer le Canada, qu'il était le plus incompétent et qu'il n'allait pas être capable de battre Pierre Poilievre. Il était le candidat idéal pour lui battre Pierre Poilievre à la prochaine élection. Énorme mandat que se donne Jack Metzing et évidemment tout le monde le regardera se planter à la prochaine soirée électorale parce que de toute façon les intentions de vote pour son parti sont en chute libre. Des élections sont déclenchées demain, il perd une très grande majorité de sa députation pour se ramasser avec à peu près une dizaine, ce qui ferait en sorte que lui également perdrait probablement son siège de toute façon parce qu'en Colombie-Britannique, c'est serré, et qu'il perdrait de toute façon la chefferie parce que justement, avoir précipité des élections et donner un ticket gratis à Pierre Poilievre et à régner en roi et maître pendant 4 ans en tant que gouvernement majoritaire conservateurs. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des grandes entreprises pour se battre pour les gens. Ils ne peuvent pas arrêter les conservateurs, mais nous pouvons le faire. C'est le message qu'a lancé Jack Meat en point de presse, tout en répétant ad nauseam qu'il allait être l'alternative aux libéraux, que les libéraux sont pas bons et que Pierre Poilievre est un égoïste. Fait que tout a été dit. Justin Trudeau, semble-t-il, aurait appris la journée même, lui aussi, que l'entente était déchirée, même si dans la vidéo de Jack Meat, il disait qu'il avait contacté Justin Trudeau pour lui dire qu'il abandonnait le navire, lui, avec. Ben, dans ce cas-ci, c'était semi-vrai, ou en tout cas, Justin n'avait pas pris ses messages ce matin-là. Les Canadiens et Canadiennes méritent une bataille pour l'avenir de la classe moyenne. Justin Trudeau a prouvé à maintes reprises qu'il cède toujours à la pression des PDG. Il a laissé tomber les gens. Il ne mérite pas une autre chance. Lorsqu'on parle de Pierre Poilievre, il fait semblant d'être avec les travailleurs, mais il va travailler lui aussi pour les PDG, essentiellement. Fait que, voilà, il y aura élections anticipées. Quand seront ces élections anticipées? La question n'est pas encore réglée, puisque de toute façon, Pierre Poilievre, à la première occasion qu'il aura, si ce n'est pas au jour 1 de la prochaine assemblée au Parlement, va demander un vote de destitution. Et là, la pression va retomber à nouveau sur Jack Metzing, parce que maintenant qu'il utilise des termes comme « égoïste » et « incompétent », va-t-il lui aussi, à la toute première occasion, agir avec ce qu'il vient de dire en votant contre le gouvernement libéral et en déclenchant des élections anticipées le plus rapidement possible, c'est-à-dire la semaine prochaine, ou, surprise, va quand même voter en faveur des libéraux, donc en gardant les libéraux au pouvoir, mais en n'étant plus en concubinage, tout en disant qu'il est complètement incompétent, mais qu'il va attendre au budget, par exemple, qui pourrait avoir lieu en octobre-novembre. Fait que tout est là. Pourquoi se garrocher à vouloir une élection du côté NPD? La question est lancée. Pourquoi vouloir déclencher des élections anticipées et donner une victoire à Pierre Poilievre? La question est lancée. Parce que de toute façon, et le but aussi d'attendre le plus longtemps possible avant de déclencher des élections, c'était que Pierre Poilievre s'affaiblisse un petit peu par lui-même, parce qu'il commence tranquillement pas vite à donner des idées, mais encore une fois, tranquillement pas vite. Plutôt que de se précipiter et de commencer à dire que « Ah, mais là, il faut absolument qu'on se détache des libéraux. » En même temps, il y a 2 élections partielles, un bastion NPD dans l'Ouest et une possibilité de gain à Montréal, puisque il n'y a pas d'autres candidats NPD à Montréal. Mais ça reste quand même un pari risqué. Parce que si, en plus, Jagmeet perdait les deux élections partielles, parce que maintenant, il n'a plus le choix de les remporter parce qu'il est l'alternative pour barrer la route à Pierre Poilievre, ben s'il perd ces deux élections partielles-là, surtout le château fort NPD de l'Ouest, qui a appartenu à père et fils pendant plus de 25 ans, ben, ça va être un aveu que finalement, Jagmeet n'est peut-être pas si près que ça à battre Pierre Poilievre et va perdre la face et pourrait perdre encore plus de votes qu'il en perd déjà. Mais encore une fois, c'est un gros gamble. C'est un gros pari qu'il a décidé de prendre. Est-ce que ça lui sera profitable? Pour lui-même, il le faudrait. Mais dans les faits, ça va être très difficile pour lui. Donc, Jagmeet qui déchirait l'entente avec les libéraux cette semaine. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cet énorme deuxième service de cette semaine. Politique, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça donne des semaines de même. En même temps, il n'y a pas manqué de sujet, c'est sûr et certain. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière édition de l'été du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIS 94.3. À la semaine prochaine. Salut.